le fil secret.
Que peuvent bien se raconter de grands musiciens lorsqu'ils se croisent? Voici le fil secret de leur rencontre.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Brahms et Dvorak nourrissaient une solide amitié. Ils étaient quasi contemporains. Brahms était né en 1833 à Hambourg et mourut à Vienne en 1897. Dvorak naquit dans un village au nord de Prague en 1841 et mourut à Prague en 1904. Ils firent connaissance de façon inattendue. Antonin Dvorak était le fils d'un aubergiste, également boucher et également musicien. Il était prévu qu'il succède à son père, mais devant ses dons musicaux, Antonin fut envoyé dans une école de musique à Prague. Il en sortit dûment diplômé et devint altiste dans un orchestre, la Prager Kapelle. Il se familiarisa ainsi de l'intérieur avec de nombreuses œuvres classiques et contemporaines. Et en 1871, à 30 ans, il démissionna de l'orchestre pour se consacrer à la composition. Il commence à obtenir quelques succès locaux. Mais Dvorak a du mal à faire bouillir la marmite, d'autant qu'il se marie en 1873. Sa troisième symphonie est jouée en 1874 avec un certain succès. Il décide alors de la présenter à un concours musical organisé par l'État autrichien. Le premier prix est une bourse de 400 florins, ce qui fait 1000 francs or de l'époque, soit à peu près 200 jours de salaire d'un ouvrier. En 1874, Brahms est installé à Vienne depuis 12 ans. Il y est célébré, autant comme pianiste que comme compositeur. Ses œuvres connaissent un grand succès et Simrock, son éditeur, fait de très bonnes affaires. Bref, Brahms est la figure tutélaire de la ville. Dans ces conditions, rien d'étonnant à ce qu'il soit membre du jury d'attribution des bourses auxquelles se soumet Dvorak. Et c'est ainsi que les deux hommes se rencontrent. Brahms comprend immédiatement à qui il a affaire. La bourse est attribuée à Dvorak et sera renouvelée 5 ans de suite. De plus, Brahms recommande Dvorak à son éditeur Simrock. Or, ce dernier s'impatientait. Brahms avait publié, entre 1867 et 1873, des danses hongroises qui avaient obtenu un succès colossal. Évidemment, Fritz Simrock en voulait d'autres, mais Brahms faisait la sourde oreille. Simrock eut alors l'idée de demander à ce quasi-inconnu, Antonin Dvorak, des danses slaves à l'image des danses hongroises de Brahms. Dvorak avait la composition facile. Il proposa dès 1878 une première série de 8 danses, qui eut à son tour un immense succès. Simrock se frottait les mains. Au-delà de ces succès, le lien esthétique entre Dvorak et Brahms est plus profond qu'il n'y paraît. En pleine période romantique, nos deux musiciens conservent un tempérament classique. L'un comme l'autre restent attachés à une architecture équilibrée. Si Brahms fait souvent penser à Beethoven, Dvorak rappelle fréquemment Haydn, par la fraîcheur et la spontanéité de ses mélodies. Mais tous deux annoncent aussi l'avenir, Dvorak par des rapprochements d'accords éloignés et Brahms par des modulations inattendues. La musicologie les place donc comme traits d'union directe entre la période classique et la période moderne. Écoutons deux œuvres dans lesquelles la fraternité d'inspiration entre Dvorak et Brahms se manifeste tout particulièrement. Voici d'abord le second mouvement, Andante con moto, du quintette pour piano et cordes de Dvorak. Il s'agit d'une dumka, une forme typique de la musique tchèque. Les climats sont très contrastés. La musique passe et repasse de l'abattement à l'élan des danses populaires. C'est l'une des plus belles réussites de notre ami Antonin. Le morceau est interprété ici par le quatuor Talich et Tasso Adamopoulos au second alto.
Thank you.
Le quintet pour clarinette et cordes est l'une des plus belles œuvres de la musique de chambre de Brahms, un domaine dans lequel il excellait particulièrement. À la fin de sa vie, il se prit de passion pour la clarinette et composa entre 1891 et 1894 un quintet, un trio et deux sonates dans lesquelles cet instrument joue un rôle prépondérant. Écoutons le final de ce quintet. Comme dans le morceau de Dvorak que nous avons entendu, la mélodie initiale est assez mélancolique, mais la forme des variations permet à Brahms d'introduire toute une palette de climats. Ce final est maintenant joué par les solistes de l'Orchestre philharmonique de Berlin. Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.